Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La France et ses partenaires européens actent leur retrait militaire du Mali, une décision à l'issue d'une réunion hier soir autour d'Emmanuel Macron et les représentants d'une vingtaine de pays, africains et européens, associés à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Une décision annoncée formellement ce matin, vous entendrez le chef de l'État français. Entretien dans votre édition suite à cette annonce du président français avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Le 11e anniversaire aujourd'hui du début de la révolution en Libye, la révolte qui a renversé Muammar Kadhafi en 2011. Au moins 3 civils ont été tués par un bombardement des forces du régime syrien hier, c'est arrivé dans le nord-ouest du pays. L'Iran n'a plus que quelques jours pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une grave crise de prolifération, avertissement du chef de la diplomatie française. Ce sera dimanche prochain, une dictée géante en présence de la ministre Elisabeth Moreno et de Jean-Louis Bianco, ancien président de l'Observatoire de la laïcité, initiative de l'Association des élus de France. Nous écouterons son président, Driss Etazaoui. Le Liban, sacré pour la première fois champion arabe des nations de basketball, une victoire hier 72-69 sur la Tunisie. La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel décident de retirer leurs forces militaires du Mali. Ils souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest. Une annonce ce matin du président français au lendemain d'un dîner avec les représentants d'une vingtaine de pays africains et européens associés à la lutte contre le terrorisme au Sahel, le chef de l'État français.
Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. S'agissant de l'engagement de nos partenaires européens, il sera maintenu et s'intégrera dans la réarticulation de ce dispositif. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Enfin, notre engagement aux côtés des populations maliennes sera préservé au travers des programmes de l'Alliance pour le Sahel, sous réserve que ces programmes ne puissent être détournés pour financer des activités de mercenaires ou le terrorisme lui-même.
Le chef de l'État français Emmanuel Macron, suite à cette annonce du retrait des forces militaires du Mali, entretient avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis.
L'annonce du président était attendue politiquement, mais elle confirme le fait que la lutte va se poursuivre, mais autrement, de manière beaucoup plus discrète, ou en tout cas moins grandiloquente, comme l'a pu être l'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval en août 2014. Il est moins question de la massification de l'envoi de nos troupes et plus de la spécificité de petits contingents qui pourraient venir en complément ou lutter de concert avec les forces armées qui se sentent de plus en plus impliquées, car il s'agit aussi de partir du principe que la question du terrorisme ne concerne pas seulement le Mali, même si nous avions encore 2400 militaires français qui y étaient déployés, mais concerne bien beaucoup plus largement les 4 autres pays qui appartiennent au G5 Sahel, et désormais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana. Il n'était évidemment pas anodin que lors de la conférence de presse, à l'Élysée, était présent à la fois le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, le président Nana Akufo-Addo, le président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que Charles Michel, pour témoigner d'une certaine façon d'une forme de continuité, africanisation, européanisation. Ça, c'est le narratif officiel. Est-ce que cela va suffire à masquer l'échec politique qui est désormais consommé entre la CDAO, l'Union européenne, certains pays de l'Union européenne en particulier, la France et le Mali, là, rien n'est moins sûr.
La France s'était perçue comme une force d'occupation par la population au Mali ces derniers temps.
Je crois que la France est perçue par une partie infinitésimale, mais néanmoins existante, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble des pays où les militaires français sont déployés. Que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, un petit peu moins au Tchad, il faut bien l'avouer, et évidemment au Mali. On a tous en tête, hélas, les manifestations d'hostilité contre les convois militaires de Barkhane qui avaient commencé à se redéployer depuis l'annonce française faite le 10 juin dernier, donc d'un redéploiement qui avait donc abouti à la fermeture de 3 des 6 bases que la force Barkhane occupait au Mali. Et malheureusement, on se souvient de la tragédie qu'a constitué la perte de 3 manifestants nigériens qui s'étaient évidemment mobilisés contre les convois français traversant le Niger ou le Burkina. Donc c'est un sentiment qui n'est pas que malien, il est partagé par l'ensemble des pays où les forces françaises sont déployées. J'ose même dire que le sentiment anti-français n'est pas seulement consubstantiel de la présence militaire française, puisqu'un certain nombre de pays où il n'y a pas de présence militaire française, je pense notamment au Togo, sont de plus en plus rétifs à voir l'apport positif d'une coopération diplomatique ou d'une présence militaire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal par exemple, française. Elle est de plus en plus contestée, elle est de plus en plus concurrencée par d'autres et elle est de plus en plus, je crois, instrumentalisée par des pays qui ne sont pas forcément à l'origine de l'hostilité des populations locales contre ce que représente la France et le symbole que représente l'envoi de forces militaires. Mais je crois qu'elle profite à un certain nombre de pays, et pas seulement qu'à la Russie, à la Turquie, et bien évidemment à la Chine, qui peut-être profiteront de l'opportunité, c'est sans doute vrai au Mali, pour être beaucoup plus présentes, non seulement économiquement, mais peut-être davantage militairement.
Quelles sont les conséquences de ce retrait pour les pays du nord du Mali et les pays d'Afrique du Nord ?
Alors c'est de nouveau une opportunité, et j'aurais dû rajouter que l'Algérie regardait avec beaucoup d'intérêt l'annonce française, et sans doute se frotte les mains en pensant que, comme désormais la Constitution l'y autorise, l'envoi de troupes algériennes pourrait être une option. En tout cas, c'est ce que le président Tebboune avait évoqué lors d'une conférence de presse, en évoquant le fait que l'Algérie devait se tenir aux côtés des Maliens, plus précisément des Maliens du Nord, avec lesquels les relations sont anciennes et parfaitement documentées. Donc il est tout à fait possible que l'Algérie profite du vide laissé, en tout cas dans le septentrion malien, pour être plus actif, ou en tout cas pour participer au processus de stabilisation. Le président Emmanuel Macron l'a dit, la France quitte Barkhane, mais pour l'instant la MINUSMA, donc la force des Nations Unies qui est présente depuis 2014, elle reste. Pour l'instant, les opérations européennes de formation militaire également, ça veut dire qu'il y a sans doute de la place pour de nouveaux acteurs. L'Algérie pourrait être un de ces acteurs. On évoque aussi beaucoup l'intérêt du Maroc pour une coopération militaire ou une coopération sécuritaire avec les autorités maliennes. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est rendu plusieurs fois au Mali, nonobstant la mise à l'écart des institutions régionales, notamment le CDAO. Donc il est tout à fait possible que le Maroc veuille peut-être, dans un premier temps, jouer les médiateurs, ou peut-être assumer son rôle désormais prégnant au sein de la commission paix et sécurité, alors que jusqu'à présent, la présence de Ramtane Lamamra à sa tête avait empêché que le Maroc joue ce rôle, en dehors en tout cas de son voisinage immédiat, nommément la Mauritanie. Donc il est tout à fait possible que le Maroc veuille rentrer dans la danse.
Le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Le 11e anniversaire aujourd'hui du début de la révolution en Libye, la révolte qui a renversé Muammar Kadhafi en 2011, un anniversaire au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouvelles difficultés. Le pays, déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes à l'Est et à l'Ouest, se retrouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres rivaux à Tripoli, après avoir manqué l'échéance électorale crucial de la fin décembre dernier. Au moins 3 civils ont été tués par un bombardement des forces du régime syrien. Le raid visait hier un dépôt de carburant dans une région du nord-ouest du pays, le dernier bastion de l'opposition en Syrie. Un tir près de la ville de Dana dans la province d'Idleb. L'Iran n'a plus que quelques jours pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une grave crise de prolifération. Un avertissement du chef de la diplomatie française. Plus on avance, plus l'Iran accélère ses procédures nucléaires, moins il y a d'intérêt pour les parties à rejoindre l'accord de 2015. Donc on est rendu au point de bascule. Ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jours, selon les mots de Jean-Yves Le Drian. De nouvelles réductions de l'aide humanitaire au Yémen sont à craindre dans les mois à venir, en cause un manque de financement qui pourrait aggraver la famine, touchant déjà le pays. Inquiétude formulée par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies. Une icône de la révolution algérienne, Djamila Boupacha, nommée sénatrice par le président Abdelmadjid Tebboune, a décliné l'offre, cela après l'annonce de sa nomination faite mardi soir au journal télévisé. Djamila Boupacha a déclaré vouloir rester simple citoyenne. L'association des élus de France organise une dictée géante dimanche prochain en présence de la ministre Elisabeth Moreno et de Jean-Louis Bianco, ancien président de l'Observatoire de la laïcité. Objectif, rassembler autour de la langue française, loin des débats identitaires, les explications du président de l'Association des élus de France, Driss Etazaoui.
Vous connaissez la vocation de l'Association des élus de France qui œuvre à réconcilier nos concitoyens entre eux, mais aussi à les réconcilier autour de la chose publique et autour du politique. Aujourd'hui, on constate le pays traversé par un certain nombre de fractures économiques, sociales, urbaines, climatiques et même identitaires, hein, le front de débat de l'élection présidentielle, et il est plus que temps d'essayer de rassembler nos concitoyens. Et quoi de mieux que la langue française, qui est un symbole d'unité, un facteur de cohésion, eh bien, pour rassembler les élus locaux, mais pas seulement les élus locaux, les parlementaires également, eh bien, autour d'un symbole républicain fort, la langue française et ses nuances, la langue française et ses complexités, la langue française et ce qui fait, enfin, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et autour de cela, indépendamment de nos étiquettes politiques, nos appartenances partisanes, eh bien, l'intérêt, c'est de retrouver autour d'un symbole pour lequel, eh bien, nous sommes susceptibles de faire corps. Et donc, c'est la deuxième édition de la dictée géante. La première édition a eu lieu l'année dernière, quasiment jour pour jour. Nous avons mobilisé dans les quatre coins du pays, aux quatre coins de la France, approximativement 400 élus, des élus de leur ruralité, des élus de métropole, des élus de quartiers populaires. Et bien toujours autour de ce symbole républicain qui est la langue française, la langue de Molière, et on s'est tous essayés à cet exercice de la dictée géante en visio. On a une partie en présentiel et je remercie, vous m'en donnez l'occasion, le maire du 19e arrondissement de bien vouloir nous accueillir dans le salon d'honneur de la mairie du 19e. Le siège, j'ai envie de dire le QG de la dictée géante sera installé dans la mairie du 19e arrondissement, mais la visio, enfin la dictée est en visio. L'idée c'est d'avoir un maximum d'élus et de pouvoir toucher les élus de métropole comme les élus ultramarins. Donc un lien sera envoyé à l'ensemble des élus qui se seront inscrits 48 heures avant le jour J, c'est-à-dire le 20 février. Et nous serons donc à la mairie du 19e en présence de Madame la Ministre, en charge de l'égalité des chances et de l'égalité entre les hommes et les femmes, Madame Elisabeth Moreno, qui a eu la gentillesse de bien vouloir accepter d'être présente pour ce grand moment républicain. Mais également, et je salue la présence de notre deuxième parrain, qui est Jean-Louis Bianco. Tout le monde connaît Jean-Louis Bianco, il a été ministre, mais il a été aussi et surtout président de l'Observatoire de la laïcité. Je trouvais que le symbole était aussi assez important que d'inviter Jean-Louis Bianco bien pour faire la dictée, puisque c'est lui qui aura l'honneur et le plaisir non seulement de dire le texte, mais également de choisir le thème et le sujet du texte.
C'est un message aussi que vous adressez à l'ensemble des Français avant les élections. Les Français de toutes les origines se retrouvent autour de la langue française.
Force est de constater que le climat n'est pas un climat à l'apaisement. Aujourd'hui, nous avons de fortes tensions identitaires et que, eh bien, certains sujets ont bon dos auprès d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Et cette initiative autour de la langue française et de la dictée vise à montrer que nous sommes capables, eh bien, de surmonter des a priori, des fantasmes, des raccourcis, eh bien, indépendamment de nos étiquettes politiques, qu'on soit les Républicains, qu'on soit Modem, qu'on soit socialiste, eh bien, on peut toujours se retrouver un temps, pour un temps de cohésion et de rassemblement national autour de ce sujet. On l'a démontré la première fois. On avait des élus de bourgades de 80 habitants, comme un maire d'une commune de 120 000 habitants, qui a mobilisé son conseil municipal, ou en tout cas son bureau municipal, eh bien, pour faire la dictée. Eh bien, l'idée aussi, c'est de montrer et démontrer à nos concitoyens, mais également à l'ensemble des élus, qu'une autre voie est possible et qu'il y a des sujets qui nous rassemblent et que des sujets doivent toujours nous rassembler plus qu'ils ne doivent nous diviser.
Le président de l'Association des élus de France, Driss Etazaoui, il répondait à Loïc Barrière. Le Liban, sacré pour la première fois champion arabe des nations de basketball, une victoire hier, 72-69 sur la Tunisie. L'Algérie a terminé troisième du tournoi après un succès, 93-79 face à la Somalie lors de la petite finale disputée plus tôt dans la journée. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 15h et 17h30. Pour votre journal en langue française, vous retrouverez Loïc Barrière. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de l'émission, que faut-il espérer des élections législatives au Liban le 15 mai prochain, Alexis Bachelet recevra Qatar Aboudiab, politologue, professeur et expert du Proche et Moyen-Orient, et Maya Kadra, journaliste, enseignante et journaliste spécialiste du Liban. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.